bienvenue sur ce nouveau podcast de Eutimia, Pleine Conscience, qui va porter aujourd'hui sur la notion de méditation formelle et de méditation informelle. Quand on commence un programme de pleine conscience, ou même qu'on s'intéresse à la pleine conscience, il peut arriver qu'on tombe sur cette notion et que pour certains d'entre nous, en tout cas c'est les retours que j'ai eus, ça ne soit pas si clair. Donc, ce qu'on appelle méditation formelle, ça va être tous les exercices de méditation qui peuvent exister dans la pleine conscience. Un scan corporel, la méditation sur la respiration, des méditations plus avancées sur les pensées, les émotions, etc. Tout ce qui va être structuré en temps effectif de méditation, que ce soit du yoga, que ce soit de la méditation assise, va être dans les approches basées sur la pleine conscience considérée comme pratique formelle. Au contraire, quand dans vos activités dans la journée, vous décidez par exemple de vous arrêter pour revenir à la respiration et de ne rien faire juste que de respirer dans un moment qui peut durer de 1 minute à 3 minutes, ça c'est de la méditation informelle. Quand vous entreprenez de faire une action en conscience, donc dans le jargon de la pleine conscience, ça signifie être conscient de ce qu'on fait moment après moment. Par exemple, je décide de prendre une partie de mon déjeuner en conscience, de vraiment poser mon attention sur la couleur des aliments, leur goût, leur saveur, etc. Là, à ce moment-là, je fais une pratique non formelle de pleine conscience. À partir du moment où on stimule notre attention dans une activité, quelle qu'elle soit, d'une certaine façon, et qu'on veille à ne pas y associer des pensées qui vont vers le futur, des pensées qui vont vers le passé, qu'on ne fait pas autre chose, qu'il y a un côté un peu monotache dans les actions, a priori en tout cas pour commencer, dans les pratiques de pleine conscience non formelles. Si vous faites du sport, on pourrait considérer que d'être complètement absorbé dans son activité sportive, c'est une action en pleine conscience. Alors, il n'y a pas tous les éléments, mais cette idée d'être absorbé dans ce qu'on fait moment après moment est un élément central dans les pratiques non formelles de pleine conscience. Alors, qu'est-ce qui va déterminer une pratique de pleine conscience complète d'une autre pratique ? À mon sens, le fait d'être simplement focalisé sur ce qu'on fait et vraiment conscient de nos gestes, des saveurs, des perceptions est une base pour la pleine conscience, mais ne suffit pas en soi à qualifier cet exercice de pleine conscience sur le long terme, que ce soit de la pratique formelle ou informelle. Il me semble que pour qu'une pratique de pleine conscience puisse avoir ce nom, il est nécessaire qu'on pratique dans trois perspectives. La première perspective, c'est la stabilité. Arriver justement à stabiliser son mental, stabiliser son attention. Ça, c'est le point important. Et en effet, par exemple, prendre une douche en pleine conscience, faire du vélo en pleine conscience, va générer chez nous une aptitude à la stabilité, le fait d'être dans ce qu'on fait complètement, pas s'éparpiller. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette stabilité va être ressourçante. On va être sensoriellement présent, imprégné de ce qu'on fait. On va être conscient des sensations agréables, du simple fait d'être présent, et aussi conscient des perceptions sensorielles qui peuvent éventuellement avoir cours dans ça. Si par exemple je prends une partie de mon déjeuner, il ne va pas y avoir simplement le goût, il va y avoir aussi d'autres perceptions, au moins l'ouïe. L'odorat peut-être, l'audition aussi par exemple, c'est amusant pour nous de croquer dans des aliments, il peut y avoir plein de choses. Si on est sportif, le fait de faire du vélo, par exemple, j'ai beaucoup ce retour dans les groupes, ou de marcher simplement, eh bien il va y avoir la conscience qu'on marche, l'attention est focalisée dans le fait de marcher. Mais le fait d'être concentré, paradoxalement, ça peut être un peu contradictoire avec ce que j'évoquais tout à l'heure, va nous donner une certaine forme de disponibilité sensorielle. Et cette, par exemple, on va voir des détails qu'on ne voit pas d'habitude en marchant, On va être sensible à l'air dans le visage quand on fait du vélo, alors qu'avant on était juste préoccupé par ce qu'on allait faire dans la journée. J'écoutais un docteur au CHU de Bordeaux ce printemps 2020 qui était si difficile pour eux, me dire qu'à chaque fois qu'elle prenait son vélo et qu'elle passait vers les tilleuls, elle redécouvrait l'odeur des tilleuls, même si les journées avaient été difficiles. Donc ça, c'est un point qui est vraiment important, c'est cet aspect, cette phase de ressourcement qui est un point clé de la pleine conscience. Un troisième point clé, c'est la capacité de se servir de cette stabilité de ce ressourcement pour faire face aux situations difficiles. Une pratique de pleine conscience qui serait juste de la concentration, il n'y a pas besoin de faire de la méditation pour ça. Descendre une piste de ski, il faut être concentré. Et pourtant, il n'y a pas besoin de méditation pour ça. On a des grands skieurs qui n'ont jamais médité de leur vie et qui pourtant sont au top techniquement. Se ressourcer, c'est pareil. La méditation peut aider à nous ressourcer, mais il n'y a pas forcément besoin de s'asseoir une demi-heure, une heure par jour, 20 minutes, pour pouvoir se ressourcer dans nos sens. Il y a d'autres méthodes qui peuvent exister qui font qu'on est sensoriellement éveillé. Par contre, c'est vraiment la conjonction des trois, c'est-à-dire la stabilité, la capacité de se ressourcer à travers cette stabilité, et la capacité d'accepter, d'explorer, de se poser sur une expérience douloureuse qui va être désagréable, qui va être vraiment un point qui fait que on parle à ce moment-là d'une aptitude à la pleine conscience. Ces trois aptitudes sont cultivées à travers les pratiques formelles et informelles. Donc c'est un point qui me semble important parce que comme la pleine conscience est relativement à la mode à notre époque, il y a beaucoup de techniques aujourd'hui qui se prévalent de la pleine conscience et pourquoi pas, après tout, chacun fait comme il veut. Chacun a sa propre compréhension. Toutefois, dans les approches à proprement parler des programmes basés sur la pleine conscience, qu'on appelle en anglais MBI, Mindfulness Based Interventions, il me semble que ces trois temps sont vraiment importants et se structurent autour des pratiques formelles et informelles. Stabiliser l'attention, d'abord dans l'immobilité du corps ou d'une pratique formelle, puis ensuite dans le mouvement, à travers des actes simples du quotidien, s'arrêter dans la journée, faire une tâche simple de manger, de marcher, et puis progressivement, à travers ça, en combinant la stabilité et le mouvement, être plus capable de se ressourcer. Mais ce ressourcement ne peut pas s'arrêter au bien-être. En tout cas, les pratiques de la pleine conscience ont été conçues il y a plus de 2000 ans pour vraiment que ça soit aussi une capacité d'être plus clair pour accueillir les expériences désagréables, pour être plus fort, pour justement surpasser les afflictions qu'on peut rencontrer dans son corps, dans ses relations ou dans ses émotions. Donc ces trois temps vont rythmer les pratiques formelles et informelles que vous pouvez trouver dans les programmes de pleine conscience. Alors, quel est le lien entre la méditation formelle et informelle ? On a parfois l'impression qu'on est plus à l'aise dans les pratiques informelles ou bien dans les pratiques formelles. Il arrive que certains d'entre nous, ça soit assez facile d'avoir une pratique régulière avant un programme ou après un programme d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Certaines personnes pratiquent une heure par jour. Mais elles témoignent du fait qu'une fois que leur journée commence, il est très difficile de faire ces temps d'arrêt de pratique informelle. A l'inverse, on a d'autres personnes pour qui les temps de pause dans la journée sont une chose qui est progressivement acquise, que ce soit à travers des temps d'arrêt ou des moments de pleine conscience, comme marcher, courir, faire du vélo, s'arrêter, ralentir. Tout ça se met en place progressivement. En revanche, trouver du temps pour vraiment se donner à la pratique, c'est plus difficile. Alors, il y a quand même un lien entre ces deux aspects, même si on peut, dans certaines périodes de sa vie ou suivant nos caractères, être plus efficace dans l'un ou dans l'autre. La pratique informelle va être la continuation de la pratique formelle. Parce qu'on donne du temps pour se poser chez soi, à ce moment-là, le fait de s'arrêter ou de faire des choses en conscience vont nous aider à pouvoir intégrer l'expérience de la pleine conscience à travers des moments simples dans notre quotidien. Et c'est comme si on réactivait ce qu'on s'entraînait à faire dans des pratiques formelles. À l'inverse, des moments informels de pratique dans la journée vont nourrir notre pratique formelle, dans le sens où il va y avoir une sorte d'imprégnation de notre vie qui va faire que les temps de non formels de méditation qu'on va faire dans la journée vont en quelque sorte activer, nourrir notre pratique formelle chez soi. Sinon, on aura tendance à pratiquer deux mondes différents, c'est-à-dire que les pratiques formelles ne vont pas permettre de s'intégrer dans notre quotidien. Et les situations stressantes, les situations ressourçantes, certes, on peut en trouver dans notre temps de méditation, mais elles sont aussi souvent dans nos interrelations avec les autres. Le fait de s'habituer à introduire des temps de pratique informelles dans la journée va réactiver notre entraînement dans la méditation. À l'inverse, le fait de pouvoir se poser dans des temps informels dans la journée vont permettre de donner du substrat à notre pratique formelle. Quand on pratique de manière formelle, on peut avoir la tentation plus ou moins consciente de faire de notre pratique formelle une sorte de forteresse, quelque chose dans lequel rien ne peut rentrer et surtout pas les perturbations. Or, c'est assez bien décrit ça par Kabat-Zinn dans Au cœur de la tourmente dans la pleine conscience. C'est parce qu'il va y avoir dans notre pratique tout un tas de choses qui peuvent venir nous gêner, la posture, des souvenirs, etc. Et que ça va être approché à l'aide des exercices qui sont proposés dans la méthode, que progressivement, notre conscience va pouvoir acquérir un certain nombre de qualités, de stabilité, de clarté, de compassion, pour pouvoir justement approcher ces perturbations et qu'elles puissent se pacifier. Donc, chaque fois qu'on fait des pratiques informelles, c'est comme si on nourrissait notre pratique formelle. Et l'inverse devrait être vrai aussi. Donc, il y a une indissociabilité. Alors après, en fonction de nos caractères, c'est tout à fait normal qu'on puisse avoir des préférences. Mais c'est vraiment important de pouvoir avoir quand même un écho non formel à notre pratique formelle et inversement, que notre pratique informelle puisse se retrouver régénérée à travers notre pratique formelle. Donc ces deux temps sont vraiment indissociables. Et évidemment, en fonction de nos caractères, il va falloir mettre en place des méthodes pour pouvoir que la méditation de la pleine conscience soit complète. Sinon, moi je me suis retrouvé pas mal dans cette situation quand j'étais sur un centre bouddhiste. J'avais tendance à diviser ma journée en deux. Il y avait mon temps de pratique et mon temps d'activité. Et c'est comme si c'était imperméable. Il m'a fallu du temps. Ces enseignements sur l'attention, ils nous ont été donnés dans un cadre traditionnel en 2006. Et j'étais déjà présent sur un centre depuis 2002. Donc pendant 4 ans, il y avait vraiment le temps qui était destiné à la méditation, au sacré, etc. Et puis après, je me débrouillais comme je pouvais. Mais j'avais, je ne sais pas pourquoi, sans doute un défaut dans mon apprentissage, fait le lien entre des pratiques élémentaires, non formelles au quotidien, qui pouvaient me permettre de réactiver ce que j'avais touché dans la pratique. Pourtant, ce n'est pas faute qu'on l'ait appris plus tôt, mais je ne l'avais pas saisi avec autant de clarté et d'importance. Alors, comme j'avais la chance de vivre dans un lieu où finalement il y avait une continuité entre la pratique formelle et la pratique non formelle, c'était une vie un peu monastique que j'avais, ça se voyait pas. Mais après, quand j'ai quitté le centre et qu'il m'a fallu aller dans la vie, là, c'était très important de pouvoir avoir cette interaction entre pratique formelle et informelle. Et je sais que même dans un cadre laïque, nombre sont les participants qui se retrouvent aussi à vraiment avoir de grands bénéfices à pouvoir associer les deux. Voilà, donc c'était un tour d'horizon sur ces pratiques formelles et informelles, le lien qu'il y a entre les deux et leur combinaison avec ces trois temps de la pratique, stabilité, ressourcement et ce processus d'acceptation des circonstances difficiles. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast Timia et j'espère vous retrouver avec nos méditations guidées ou bien dans un stage très bientôt. À bientôt, merci.